Le journal Loïc Barrière. Les Soudanais appelés à manifester massivement samedi pour dénoncer le coup d'état militaire. Le secrétaire général de l'ONU appelle l'armée à la retenue durant cette journée de mobilisation pour éviter de nouvelles victimes. La reprise épidémique se confirme en France et commence à se ressentir à l'hôpital, selon l'agence sanitaire Santé publique France. Hommage ce vendredi aux trois victimes de l'attentat de Nice. Il y a un an, un terroriste assassinait le sacristain et deux fidèles de la basilique Notre-Dame. La chanteuse Yara Lapidus rend hommage aux Libanais et à Beyrouth avec sa nouvelle chanson Oumi à Beyrouth, entretien dans ce journal. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, samedi à 11h et 23h, sera Didier Nebeau, auteur de La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la Kaéna. Nous écouterons un extrait de cette émission. Le président Joe Biden appelle la junte au Soudan à rétablir le gouvernement civil, un appel qui intervient après la décision du général soudanais Abdel Fattah el-Burhan de dissoudre le gouvernement qui devait assurer la transition vers la démocratie. Des ministres et des hauts responsables civils ont été arrêtés. Le président Biden promet que Washington continuera de se tenir aux côtés du peuple soudanais et de saluer non violente. Les Soudanais hostiles au coup d'état militaire ont décidé de manifester à nouveau dans la rue. Un rassemblement géant est prévu ce samedi à Khartoum. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU appelle l'armée à la retenue et à ne pas faire davantage de victimes. Selon Antonio Guterres, les gens doivent être autorisés à manifester pacifiquement. La chanteuse d'origine libanaise Yara Lapidus interprète une chanson dédiée aux Libanais après la double explosion du 4 août, Oumi ya Beyrouth, un single dont les bénéfices seront versés à la Croix-Rouge libanaise. Il s'agit du premier extrait du nouvel album de Yara Lapidus, Back to Colors, à venir en janvier 2022. Nous l'écoutons.
Cette chanson est née le soir du 4 août et les mots ont jailli de manière très spontanée. D'ailleurs, je m'exprime, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer dans ma langue natale, ce qui est une chose qui ne m'arrive pas souvent. Mais c'était peut-être pour moi une forme de me rapprocher, une manière de me rapprocher le plus possible de mon pays. Parce que je n'y étais pas à ce moment-là, j'étais à Paris.
Que dit cette chanson ?
Alors, ce sont des mots tendres, ce sont des mots extrêmement positifs. Kenyamaken, ça veut dire il était une fois ce Liban-là. En fait, j'ai toujours été bercée par ce Liban que je n'ai pas connu. J'ai été bercée par ces histoires que m'ont raconté mes parents, par les images que j'ai vues, les films que j'ai vus de très nombreux de ce Liban irréel de grâce, de classe, de tant de beauté, un vivier de culture et un milieu artistique extraordinaire qui existe toujours, mais qui n'est plus le même, évidemment, qui ne fait plus rêver en tout cas. C'est-à-dire que dans tous les couplets, c'est une forme de nostalgie et c'est uniquement dans le refrain où je dis « Oumi à Beyrouth, relève-toi à Beyrouth ». C'est le seul moment où je m'adresse à cette ville en lui implorant quasiment l'ordre de se relever. Mais c'est le seul moment, c'est la seule partie qui fait, si vous préférez, allusion à une forme de tristesse, mais l'ensemble est plutôt positif parce que je trouve que le pays aujourd'hui a besoin justement de se ressouvenir, et le monde surtout, de se ressouvenir de ce qu'était le Liban et qu'on arrête un peu de se fixer sur les images que projettent les informations, que ce soit CNN, ou je ne critique pas, évidemment, je suis heureuse quand on met la lumière sur ce pays, mais malheureusement, on parle souvent du Liban ces 20, 30 dernières années pour les mauvaises raisons.
L'art peut sauver le Liban ?
En tout cas, il me sauve moi. Et je pense que la musique a ce pouvoir de vous projeter dans une époque, de raviver en vous des sensations. C'est ce que je cherche à faire, en tout cas, tous les jours, à travers de mon écriture ou même de mes compositions.
Alors, cette chanson a été composée avec un grand compositeur.
Oui, absolument. C'est Jean-Louis Pierrot et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que je l'ai rencontré le 4 août 2020. Nous avions rendez-vous en fait le 5. Je me trompe de date, ce qui m'arrive jamais, mais c'était en pleine période de confinement, donc on sortait pas beaucoup. Et je me retrouve le 4 août à l'attendre dans un café. Et puis je l'appelais, je lui disais, Jean-Louis, mais où es-tu? Et il me dit, c'est demain notre rendez-vous. Et donc j'ai réalisé que je m'étais trompée. Et là, il prend son scooter à 17h30 et vient me retrouver. Il vient me retrouver et on discute une demi-heure ensemble. Et je vois mon portable frétiller de SMS, de messages. Est-ce que tes parents vont bien? Où es-tu, Yara, etc. Par politesse, je retourne mon téléphone, je le mets sous silence. Et la suite, vous la connaissez.
Aujourd'hui, vous avez de l'espoir pour le Liban, malgré la période difficile que ce pays traverse?
Si vous préférez, je crois en l'humain, je crois en ce pays, mais force est de constater que nous sommes aujourd'hui, sans vouloir entrer dans des détails politiques, sans vouloir citer de nom, mais malheureusement, c'est un pays gangréné par une mafia vraiment digne de ce nom. Et il faut un miracle, il faut un sursaut de la diaspora. Je pense que ça peut beaucoup changer les choses. Nous sommes près de 10 millions dans le monde. La parole est à nous pour voter. Ce serait peut-être la première fois pour moi que j'irai voter, figurez-vous, parce que jusque-là, j'ai toujours vécu, je suis née sous les bombes, j'ai toujours vécu dans un pays occupé par ceux-là, par les autres, et donc je n'ai jamais voulu voter, même quand j'ai été majeure. Je n'ai jamais voulu parce que je n'ai jamais reconnu ce pays dans son indépendance réelle, en fait.
Yara Lapidus, les bénéfices de ce single iront à la Croix-Rouge libanaise.
Écoutez, pour moi, il était impensable de sortir ce morceau qui m'ont préféré dans l'album sans en faire cadeau à ce pays qui est en pleine détresse. Et je pense que les secours libanais sont en première ligne aujourd'hui. 1,29€ d'achat de ce morceau sur iTunes ira intégralement à la Croix-Rouge libanaise. Donc pour moi, c'est plus qu'important. Et j'encourage à télécharger ce morceau sur iTunes parce que vous connaissez mieux que moi les revenus dérisoires des plateformes comme Spotify et Deezer qui sont de l'ordre de 0,0024 centimes. Voilà pourquoi j'incite les gens diaspora ou autres à aller vers iTunes et télécharger Oumia Beyrouth à 1,29€.
La chanteuse Yara Lapidus. Il y a un an, un homme tué au couteau trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Ce vendredi a été marqué par une journée de commémoration dans cette ville des Alpes-Maritimes. Le glas a sonné à 8h45. À cette heure-là, Brahim Aissaoui entrait à l'intérieur de l'église pour tuer trois personnes, le sacristain ainsi que deux fidèles venus se recueillir. Il avait ensuite été interpellé par la police municipale. La justice française a confirmé la condamnation à perpétuité de Sid Ahmed Glam. Ce ressortissant algérien avait préparé un attentat à Villejuif, attentat déjoué par la police. Il était aussi l'auteur du meurtre d'Aurélie Châtelain en avril 2015. La France n'en a pas terminé avec la crise sanitaire. Selon Santé publique France, la reprise épidémique se confirme, les admissions à l'hôpital et en soins critiques sont à nouveau en hausse. L'agence encourage la vaccination des personnes non vaccinées contre le Covid-19. Les plus de 65 ans et les personnes éligibles sont incitées à faire le rappel de leur vaccin, la fameuse troisième dose. Autre conseil, continuer à respecter les gestes barrières. L'économie française se porte bien selon l'INSEE au troisième trimestre. Elle a enregistré l'un de ses meilleurs taux de croissance en un demi-siècle à 3%. Malgré les pénuries mondiales qui ont freiné l'industrie, l'économie française est quasiment revenue au niveau d'avant la crise sanitaire. C'est un chiffre qui est au-delà de nos espérances, a réagi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il parle d'un résultat exceptionnel. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, samedi à 11h et 23h, sera Didier Nebeau, auteur de La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la Kaina aux éditions Éric Bonnier, un roman inspiré de l'histoire de cette chef de tribu berbère qui résista à la conquête arabe au 7e siècle. On écoute un extrait de cette émission.
Effectivement, il y a eu plusieurs révoltes. Il y a d'abord la première révolte, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme l'Arabie qui les Arabes qui s'installent en Égypte très rapidement, et ça s'est passé en peu de temps. Donc en Afrique du Nord, cette conquête s'est faite en plusieurs vagues. D'abord, c'est assez loin, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc il y a eu d'abord des sortes de petites razzias, et c'est comme ça que les premières razzias opposaient plutôt la Kaina n'existait pas encore, hein. C'était dans un premier temps, on la voit arriver qu'à la fin des combats pratiquement. Donc cette conquête s'est faite progressivement. Donc il y a d'abord eu, comme je vous l'ai dit, des petites luttes entre les Byzantins et les Arabes arrivants. Donc comme c'était très loin, ils ont créé une place forte qui s'est appelée Kairouan, qui est devenue plus tard une vraie ville. Mais ils avaient besoin des Arabes, puisqu'ils venaient pas par la mer, ils avaient besoin d'un endroit, donc ils ont créé Kairouan. Et à partir de là, il y a eu donc effectivement un tas de conquêtes, de défaites multiples, avec Saïla, qui est quand même un autre personnage assez emblématique, qui s'est converti plusieurs fois, qui a été battu, qui a fini par battre les Arabes. Ils sont revenus, ils sont repartis. Enfin, c'était une conquête très, très, très multiple et très compliquée.
Ce qui a été le plus difficile pour la Kaina, ça a été d'unifier les tribus berbères. Il y avait trop de rivalité entre elles.
Oui, oui, c'est ça. Alors effectivement, l'histoire dit que dans un premier temps, elle a pu réunir sur son nom toutes ces tribus qui étaient très disparates. Certaines étaient donc chrétiennes, d'autres étaient païennes, d'autres étaient juives, bien sûr, d'autres étaient mixtes. Et l'arabe arrivant, dans un premier temps, elle a été capable, après ses défaites, parce qu'avant elle, les berbères ont gagné, ont perdu, ont gagné, ont perdu. Et donc, elle a été capable d'unifier donc la plupart de ses tribus dans un premier temps. Et elle a gagné dans une grande bataille qui s'appelle la bataille de la Meskhiana, avec une stratégie fantastique, puisque avec des chameaux qui étaient au fond de cette oued, la Meskhiana, qui s'appelle l'oued Nini aussi, ses soldats se sont mis sous les chameaux, ils ont laissé arriver donc les troupes arabes, et après les troupes arabes croyaient que le gros des troupes de la Kaina était là, misérable quoi, alors que non, lorsque les Arabes sont arrivés dans l'oued, du flanc des collines tout autour sont descendus des myriades de combattants, et c'est comme ça que la Kaina a gagné sa première guerre. En plus, non seulement elle a gagné sa première guerre, elle a fait un grand prisonnier qui s'appelait Khaled, et qui a été vraisemblablement, l'histoire ne le dit pas, mais les quelques textes que nous avons le prouvent, qui a été son amant et qui a été aussi l'espion qui aller vers Khaled, qui envoyait des messages en lui disant ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour continuer la conquête de cette Ifriqiya, de Suez et de cette Numidie. C'est comme ça que ça s'appelait.
Alors si la Kaina a résisté vaillamment à la conquête arabe, elle a fini par perdre le combat, Didier Nebeau. Elle a été décapitée près d'un puits. Oui. Que sait-on de sa chute et des dernières années de sa vie ?
Alors oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il faut se mettre dans le contexte de l'époque, encore une fois, et puis dans le contexte de la région. Donc ce sont des gens qui sont plutôt nomades, ou s'ils sont pas nomades, ce sont des transhumants. Donc je vous disais, donc c'était des clans, une multitude de petits clans qui vivaient de manière difficile, soit dans les montagnes, soit dans les petites steppes semi-désertiques du coin. Dans un premier temps, chacun avait son indépendance. C'est pour ça qu'elle n'a pas réussi dans un second temps. La Kaina, il y a deux périodes en quelque sorte. Il y a trois périodes. Il y a une première période qu'on connaît mal, c'est sa jeunesse, où certainement elle se forge, où son mari arrive, où elle l'assassine, comme je vous l'ai dit. Et c'est pas elle qui est qui est devant, le devant de la scène de la guerre avec les Arabes, c'est Qusayda et c'est les Grecs. Donc quand elle apparaît, dans un premier temps, elle est capable de réunir sur son nom justement toutes ces tribus disparates qui n'ont pas les mêmes coutumes, parce que c'est l'unité, parce que l'envahisseur arrive, parce que il faut se défendre. Mais ils avaient donc des coutumes pas tout à fait les mêmes, puisque certains étaient juifs, certains étaient chrétiens, d'autres étaient païens. Ce qui a été possible dans un premier temps, dans un deuxième temps, donc dans la deuxième partie de celui, la Kaena n'a pas été capable de continuer à faire l'union autour de son nom. Alors donc comme elle n'a pas pu faire l'union, elle a été, là c'est l'histoire qui le dit, elle a été plus brutale, plus violente. Elle n'acceptait pas de ne pas continuer à faire en sorte que tous ces gens-là la suivent, et ils l'ont pas suivi. Et quand l'islam est arrivé à nouveau, ils se sont rendus les uns après les autres, et la Kaena est restée seule avec son dernier carré. Et puis, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est pas moi qui l'ai dit, ni vous, c'est l'histoire, elle s'est sauvée, elle a refusé, elle a ordonné aux siens de se rendre, de se convertir, parce que la lutte, le clan était plus important que la vie était importante. On est donc dans des temps difficiles, elle n'a pas accepté, elle s'est sauvée, et Hassan l'a rejoint. L'histoire dit que c'est près d'un puits. Et alors on dit le puits, il est là, on ne sait pas où est ce puits en fait. Et elle a été décapitée. Voilà l'histoire de cette femme, de cette Jeanne d'Arc, comme vous avez dit, extraordinaire, magnifique, personnage mythique, emblématique, moderne, très à la mode aujourd'hui, puisque la femme, à juste titre, veut sa liberté. La Kaena, elle a été l'une des premières à représenter la liberté.
Didier Nebeau, auteur de La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la Kaena aux éditions Éric Bonnier. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, samedi à 11h et 23h, émission rediffusée dimanche à 19h. L'invité de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h est Geoffrey Carvalinho, conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin et soutien de Valérie Pécresse. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.